Merci, bonjour à tous les auditeurs qui sont à l'écoute. Nous allons donc ce matin essayer de défricher un petit peu la question de la médiumnité, de la voyance. Les utilisations classiques de la médiumnité, vous connaissez probablement les voyants, les médiums, mais on pourrait dire aussi le spiritisme, car souvent, autour d'une table, il y a quelqu'un qui a des dons de médiumnité et qui peut ainsi faire parler un défunt d'une personne qui est autour de la table. La médiumnité concerne aussi le pendulisme, les gens qui utilisent le pendule pour faire dire oui ou non. Et très largement dans les courants New Age aussi, cette espèce de façon de penser qu'on est en relation avec des esprits qui vont nous répondre par oui ou par non à des questions qu'on leur pose concernant telle ou telle réalité, est-elle bonne, est-elle pas bonne, etc. On pourrait dire aussi que la médiumnité concerne les thérapies alternatives, car souvent, au-dessus d'une explication ou en dessous d'une explication qui semble absolument mirobolante, on a des dons occultes qui sont en action. Alors on va essayer de regarder un petit peu plus en profondeur, au long de ces trois temps de l'émission, comment fonctionne la médiumnité. Comme j'ai l'habitude, je voudrais toujours partir d'exemples du terrain. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Patricia Daré, qui se prétend médium spirit, et qui, déjà depuis de longues années, est intervenu à travers des interviews, etc. Là, par exemple, j'en ai un sous les yeux où le journaliste dit « Vous semblez être médium ». Et puis, quand on lui pose des questions, un journaliste lui pose des questions « Qui sont ces voix dont vous parlez et qui vous guident ?» Elle répond ceci « Aucune idée. On ne m'a expliqué que très sommairement comment ça fonctionnait de l'autre côté. » C'est une force extérieure, mais une chose est sûre, il n'y a pas d'histoire de religion. « Qui êtes-vous » leur demandai-je au début. « C'est moi » répondait l'un. « Quoi, qui, moi, quel est ton nom » insistai-je. « Je ne m'appelle pas » rétorquait une voix. « Mais qu'importe puisque tu me reconnais. » Et c'est vrai, car chaque voix a une énergie différente. Pendant quelque temps, c'est un groupe, et puis tout à coup, ce ne sont plus les mêmes, il y a comme un renouvellement d'équipe. Qui sont-ils réellement? Jamais nous ne le saurons tant que nous ne serons pas passés de l'autre côté. Mais ce sont eux qui sont chargés de faire fonctionner ce que nous sommes. Je l'appelle la hiérarchie. Ça, c'est une interview très ancienne de Patricia Daré. Alors, je souligne quand même cette réponse de l'un des esprits. Quand on lui demande son nom, il répond « Je ne m'appelle pas, mais qu'importe puisque tu me reconnais. » Je ne m'appelle pas. Ça, c'est quand même un peu fort, vous comprenez? C'est signé. Il y a une apersonnalité. Il n'y a plus de personnalité. Il n'y a pas de nom. Voilà. Donc, c'est dans le fondu de l'ensemble de ces esprits. Parce que les médiums prétendent nous mettre en relation avec l'au-delà. Et que ça, c'est une des plus grandes tromperies qu'on puisse nous mettre sous le nez. Ce n'est pas une relation avec l'au-delà. On va y revenir. C'est autre chose, la médiumnité. Donc, tous ceux qui nous disent qu'ils nous mettent en relation avec l'au-delà, c'est une mauvaise explication, quelquefois une mauvaise foi, et c'est vraiment à bannir. Je souligne à nouveau un passage du Deutéronome dans la Bible, chapitre 18, verset 9 et suivant. « On ne trouvera chez toi personne qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. » Et encore dans le livre du Lévitique, chapitre 20, verset 6, « Celui qui s'adressera aux spectres et aux devins pour se prostituer à leur suite, je me tournerai contre cet homme-là et je le retrancherai du milieu de mon peuple. » Au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors, Patricia Daré, on la retrouve évidemment de nombreuses fois dans des interviews. Par exemple, j'en prends un autre, toujours à travers une journaliste. Et puis elle raconte comment, au fond, trois mois après la naissance de son fils en 1995, elle a commencé à faire une série de rêves récurrents. Il y avait des espèces de voix, de présence dans ses voyages nocturnes qui disaient, en parlant de moi, elle sera bientôt prête. Et puis elle dit, une nuit, j'ai entendu une voix dans mon oreille qui m'a dit, lève-toi, prends un papier et écris. Je me suis retourné vers mon mari pensant que c'était lui qui m'avait parlé, mais non. J'ai pris une feuille de papier et ma main est partie à vive allure. J'ai mis du temps à déchiffrer les phrases. Les mots étaient attachés, les caractères énormes. Donc il s'agit d'un phénomène d'écriture automatique. Et qui plus est, elle a parlé à un psychiatre et elle dit ceci. Le psychiatre s'est rendu compte que le texte lui était destiné. On parlait de lui, de sa vie, de son passé, de son avenir. Il faut avouer que c'est quand même assez fort. Mais précisément, la médiumnité, ça consiste à soutirer des renseignements de la personne qui est en face de nous ou d'une personne qui est loin de nous, mais à travers un support qui est présent, et d'obtenir ainsi des informations. Ou même si on ne les soutire pas, dans un autre cas, on les reçoit un petit peu comme quelque chose qui va nous perturber parce que ça nous est imposé au fond. Le médium n'est pas libre. Et Patricia Darré, toujours dans ce même interview, dit « J'ai dû accepter d'entendre les morts et de les voir. Quand je refusais de les écouter, de passer le message, je tombais malade. Leur demande s'imposait à moi. Je n'avais pas le choix, il fallait que je réponde à leurs attentes. Cela pouvait se produire n'importe quand. Par exemple, un esprit me demandait d'aborder une personne qui était là, présente dans une soirée ou dans un transport en commun. Je devais donner des nouvelles de l'au-delà à des étrangers. Imaginez. » Donc voilà, elle est totalement captive de cette médiumnité et elle ajoute plus loin, la médiumnité s'est ensuite imbriquée parfaitement dans ma vie quotidienne. Une année a été nécessaire pour finaliser ma transformation intérieure. Et alors elle a quand même l'astuce de dire, la médiumnité n'est pas d'origine divine, c'est une fonction humaine. Et voilà, l'invisible m'a livré ses enseignements, voici ce qu'il m'a donné à comprendre. Avant de nous incarner, nous avons tous une vision de ce que sera notre vie sur la Terre. Nous choisissons un parcours qui nous sera nécessaire, un destin qui va nous donner des points d'évolution. L'au-delà m'a permis de réfléchir, de redéfinir notre identité. Ah mon Dieu, voilà. Alors elle a écrit plusieurs livres, hein. Elle a eu l'information du décès de son mari, par exemple. Et elle dit, les gens qui sont de l'autre côté du voile me conseillent. Alors, vous avez comme ça, souvent, dans des revues spécialisées, ou pas spécialisées, le grand public, des personnes qui parlent de leur médiumnité. Je pense, par exemple, à Geneviève Delpech. Je ne peux pas vous faire écouter, mais il y a une vidéo sur Internet où elle raconte, au fond, comment... Elle avait dit à son mari qu'il risquait d'avoir un cancer de la bouche, de la langue, et que ça s'est produit. Et quand elle dit ça, elle était en profonde souffrance. On sent que c'est quelque chose qui l'a vraiment traumatisé quelque part. Hein. Et la seule explication qu'elle dit, ben voilà, c'est notre destin. En fait, cette personne était déjà branchée au culte, entre guillemets, comme j'ai l'habitude de dire. Et finalement, elle a reçu des renseignements par capillarité, par porosité avec les esprits. Et évidemment, dans ces cas-là, on nous refile toujours, excusez l'expression, une patate chaude, c'est-à-dire l'information sur le décès d'une personne qui nous est proche. Donc vous voyez comment la médiumnité, c'est quelque chose de terriblement dangereux, il faut faire très attention. Je vais prendre un troisième exemple pour terminer, c'est celui de Stéphane Alix. Il y a une vidéo sur Internet qui s'appelle Le Test, et il est lui aussi médium, et il a fait une expérience qu'il tient pour absolument fondatrice. Au décès de son père, il a mis dans son cercueil 5 objets différents, et il n'a dit cela à strictement personne. Et il était le seul à savoir qu'il avait mis ces 5 objets dans le cercueil de son père. Ensuite, il est allé voir des voyants, et évidemment, il a été totalement bluffé parce que au moins 3 voyants, 3 médiums lui ont révélé les 5 objets qui étaient dans le cercueil de son père. Et de là, il infère que la médiumnité est vraiment un don extraordinaire qui vient d'en haut. Il ne donne pas d'explication d'ailleurs, mais la chose dont il ne s'aperçoit pas, c'est qu'au fond, le médium est capable de sonder le psychisme de la personne qu'il a en face de lui pour en soutirer des renseignements et les lui resservir sur un plateau d'argent. C'est totalement bluffant. Et à partir de là, on baisse la garde en disant « je suis devant quelqu'un d'extraordinaire ». Et donc, on a tendance à valider ce qu'elle va nous dire sur l'avenir. Je terminerai encore, je n'ai pas fini de terminer, à partir d'une citation d'un médium qui habite dans le Maine-et-Loire, pas loin de chez moi, département 49, et il s'appelle Alain-Joseph Bellet, et il dit ceci « un voyant est une personne qui a des capacités à voir le passé, le présent et le futur de la vie d'une personne ». C'est pas vrai. En fait, le voyant peut voir le passé, le présent, mais par une activité occulte qui consiste à violer le subconscient de la personne qui est en face de lui ou qu'elle rejoint par un support qu'on lui a fourni. Quant au futur, il n'existe pas à proprement parler. Et donc, il va se tisser au jour le jour. Et donc, c'est forcément un mensonge. Et il ajoute que le voyant n'est pas médium. Par contre, le médium est obligatoirement voyant et perçoit en plus un univers parallèle où vivent les esprits. Il a bien conscience que, effectivement, il y a du monde derrière. Il y a des gens qui mènent la danse. Et il appelle ça, au fond, la véritable médiumnité, être au contact avec ce monde parallèle. En fait, c'est le monde des esprits et c'est le monde des esprits diaboliques. Alors, on va revenir sur cette question. Mais peut-être que je terminerai encore une troisième fois en disant, au cours d'un exorcisme d'une personne qui était particulièrement médium, le démon à un moment a hurlé « la médiumnité, on en a besoin ». Et ensuite il a dit « c'est moi qui lui ai donné ». C'est moi qui lui ai donné. Je laisse cette phrase à votre méditation pendant notre petite pause musicale.
De Radio Maria France, nous retrouvons le père Dominique Osney pour cette seconde partie d'émission.
Alors nous continuons à parler de la médiumnité, de la voyance, de la divination, et là encore je vais vous citer un certain nombre d'exemples pour voir comment la voyance est quelque chose de dangereux. Un témoignage d'une personne alors que je donnais une conférence publique à Pontmain dans l'Ouest, un lieu d'apparition mariale. La Vierge Marie s'est exprimée sous la forme d'une seule phrase. « Mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. » La personne disait ceci, « Nous sommes dans les années 1960. Mes parents habitent alors un petit village dans le bocage mayennais. À la maison, nous sommes 8 enfants. Un voisin de mes parents, au comportement étrange et violent, sème alors la terreur dans le village, créant une atmosphère malsaine et pesante. Mon père avait découvert les pratiques étranges de ce voisin, le surprenant un jour en train de lire un livre au titre évocateur, Le Dragon Rouge. Gêné d'être surpris en pareille lecture, ce voisin proposa donc à mon père de l'initier à son tour, ce qu'il refusa. Mes parents restaient discrets sur le sujet, mais les phénomènes inexplicables et à répétition commencèrent à semer le trouble dans le village. Des personnes étaient victimes d'accidents, de malaises inexplicables, de blocages psychologiques et physiques, de disputes familiales. Les animaux étaient atteints, le troupeau de vaches se trouvait à l'étable et au matin, 3 d'entre elles étaient retrouvées mortes au bout d'une chaîne. Le matériel subissait des préjudices de toutes sortes. Au moment du fauchage, on retrouvait des pieux en fer plantés dans le champ, ce qui endommageait le matériel. Les récoltes étaient mauvaises, on les retrouvait saccagées ou piétinées avant le battage. De tels faits ont perduré plusieurs années de suite et ils ne cessèrent qu'à la mort tragique de ce sombre personnage. J'ai moi-même consulté des voyants parce que mon couple était en difficulté. Je croyais en recevoir de l'aide, mais cela est vite devenu une dépendance. On crée un lien, on en devient captif, jusqu'à ne plus pouvoir agir de soi-même. Mon mari, au passé très perturbé, était habité d'une grande violence conjugale, entretenant des mœurs perverses et une vie de débauche. C'est uniquement la peur terrible que j'avais pour ma fille et pour moi-même qui me poussait à aller consulter des voyants, lesquels savaient bien profiter de mon désarroi. Les voyants me prédirent toutes sortes de dangers et d'événements tragiques, comme sa mort, qui devait être imminente, tel jour, telle lune, mais qui se produisit des années plus tard. Et pendant tout ce temps, pendant des années et des années, cela nourrissait peurs et angoisses, alors que l'Évangile nous dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Autre prédiction ratée, elle concernait cette fois mon frère, qui devait se marier dans les mois suivant la consultation de la voyante. Il y a bien eu un mariage, mais chez une amie, pas chez nous. Et ma fille, quant à elle, n'est toujours pas mariée. Dans la plupart des cas, c'est la détresse et une grande fragilité dans leur vie qui conduisent les gens à consulter les voyants, entraînant des dépenses de plus en plus coûteuses. Après bien des souffrances, j'ai appris que mon frère avait basculé à son tour dans la voyance. La famille a alors volé en éclats. La jalousie y est maîtresse. Nous sommes devenus des étrangers les uns aux autres. Comme l'araignée qui tisse sa toile, la voyance tisse dans les familles la toile de la discorde. Ça, c'est très vrai. De l'occultisme en général, l'occultisme tisse dans les familles la toile de la discorde. Les liens avec le malin se nouent, tandis que les liens de l'amour et de la paix sont défaits. La paix intérieure dans les familles avec les autres est détruite. Cette toile malfaisante est le piège qui attire d'abord subtilement pour ensuite attraper et emprisonner sa proie. Et au lieu de tomber dans les bras du Seigneur, on tombe sous la coupe du mauvais. J'ai retrouvé depuis le chemin de l'Église, cette Église qui se dresse toujours au cœur de mon village. C'est désormais le centre de mes rencontres avec le Christ. Et c'est là que j'ai retrouvé la paix. Vous voyez, c'est un beau témoignage, un beau témoignage. Mais vraiment, ce qu'elle dit est très juste. Dès qu'on introduit la médiumnité, l'énergétique, la conjuration des maladies, la magie. Dans une famille, on tisse la toile de la discorde. Je vais vous donner un autre témoignage d'un ex-médium qui raconte. C'est tiré d'un livre de François Matthiessen, Les expériences paranormales, publié en 2014. Et il dit ceci dans ce témoignage, c'est en allant fréquemment consulter un médium que Bernard s'est plongé dans les pratiques occultes. Étant croyant, il voulait être utile aux autres et a demandé à Dieu, en toute bonne foi, de lui donner des pouvoirs paranormaux, comme la voyance et le magnétisme, pour aider les autres. Très vite, il a pu exercer des pouvoirs paranormaux, et ses dons de voyance étaient fréquemment confirmés par les faits. Il a ouvert un cabinet de voyance, lecture des mains, tarot et magnétisme, qu'il a maintenu pendant plus de 13 ans. Les années passant, il commençait à se poser des questions sur l'aide réelle que la voyance apportait aux autres et découvrait que les informations reçues torpillaient parfois des couples unis ou des vies heureuses. De plus, Bernard se sentit de plus en plus happé par des peurs et une tristesse inexpliquée ou des angoisses profondes. En fréquentant des assemblées de prières et de guérison spirituelle, il s'entend dire qu'il doit abandonner ses pratiques mais refuse d'écouter, puisque, pour lui, cela vient de Dieu. Un soir, il entre dans une église et confie sa pratique de voyant magnétiseur à Dieu. Le lendemain, par hasard, il rencontre une ancienne voyante qui lui partage sa certitude que ses dons proviennent du malin pour enfler l'homme d'orgueil et l'éloigner de Dieu. Mais que, tant qu'il pratique, il n'aura pas la prise de distance suffisante pour voir cela. À partir de là, il brûle tout son matériel et décide de fermer son cabinet de voyance. Il se sentit libéré et rempli d'une grande paix et d'une joie profonde. Enfin, ce sera le début d'un long chemin de lutte et d'angoisse, de prière de délivrance et de confiance pour recouvrer sa liberté intérieure. Jusqu'à sa mort, quelques années plus tard, Bernard ne cessera de témoigner du danger des pratiques de voyance, qui marchent en effet, mais grâce à qui ? grâce à quoi. Voilà un beau témoignage, mais voyez, je suis persuadé qu'il y a des personnes à l'écoute qui sont dans ce cas de figure. Un troisième exemple, vous connaissez comme moi quelqu'un qui s'appelle Michel Berrette et qui a écrit un livre qui est intitulé « J'étais voyant, maintenant je vois ». Il s'est converti en effet et il dit « Quand j'étais voyant, j'attirais à moi tous les regards dès que j'en avais la possibilité. Je faisais l'intéressante par des démonstrations de voyance. Je provoquais ceux qui semblaient douter de mes capacités. Et si quelqu'un se vantait, moi, les voyants, je n'y crois pas, c'est de la psychologie. Il suffit de connaître plus ou moins la personne. Non seulement je lui parlais de son passé, mais encore, je lui donnais des détails sur son métier, sur ses activités. J'annonçais des choses que je n'aurais pas dû savoir et que les intéressés étaient seuls à connaître. » Et voilà, je n'ai pas le temps de lire tout l'ensemble de son témoignage parce que c'est vraiment très puissant, mais je vous invite à regarder ce livre « J'étais voyant, maintenant je vois » Michel Berrette. Le pape François lui-même, qui a été affronté en Argentine à la réalité de la voyance, dit ceci, ça date du 10 janvier 2017. Les prophètes et les sages, en particulier, insistent sur cela, touchant un point névralgique du chemin de foi du croyant. Parce que la foi consiste à avoir confiance en Dieu. Qui à la fois a confiance en Dieu? Mais vient un moment où, en se confrontant aux difficultés de la vie, l'homme expérimente la fragilité de cette confiance et sent le besoin de certitudes différentes, de sécurité tangible, concrète. Je m'en remets à Dieu, mais la situation est un peu difficile et j'ai besoin de certitudes un peu plus concrètes. Et là est le danger, dit-il. Et alors, nous sommes tentés de chercher des consolations, même éphémères, qui semblent remplir le vide de la solitude et adoucir la difficulté à croire. Et nous pensons pouvoir les trouver dans la sécurité que peut donner l'argent, dans les alliances avec les puissants, dans la mondanité, dans les fausses idéologies. Parfois, nous les cherchons dans un Dieu qui puisse se plier à nos demandes et intervenir de façon magique pour changer la réalité et la rendre telle que nous la voulons. Une idole, justement, qui en tant que telle ne peut rien faire, impuissante et mensongère. Mais nous aimons les idoles, nous les aimons beaucoup. Une fois à Buenos Aires, dit-il, je devais aller d'une église à l'autre, 1000 mètres, plus ou moins. Je l'ai fait à pied. Et il y a un parc à mi-chemin dans le parc. Et à mi-chemin, il y avait des petites tables, mais beaucoup, beaucoup, où étaient assis des voyants. C'était rempli de monde qui faisait la queue. Tu lui tendais la main, il commençait, mais le discours était toujours le même. Il y a une femme dans ta vie, il y a une ombre qui vient, mais tout ira bien. Et puis tu payais. Et cela te donne une sécurité. C'est la sécurité, permettez-moi ce mot, d'une stupidité. Aller voir un voyant, une voyante qui lit les cartes, cela, c'est une idole. C'est l'idole quand nous y sommes très attachés. Nous achetons de fausses espérances. Tandis qu'à cette espérance de la gratuité que Jésus-Christ nous a apportée en donnant gratuitement sa vie pour nous, à celle-là, parfois, nous ne faisons pas tellement confiance. Voilà ce que dit le pape François en janvier 2017. Alors, à quoi reconnaît-on un vrai médium? Eh bien, on le reconnaît au fait qu'il est capable de dire des choses exactes sur le passé et sur le présent, parce qu'il est en train d'accomplir une ponction psychique chez la personne, un viol psychique, ce qui montre bien d'ailleurs que c'est profondément immoral. Et il a accès à des renseignements. Mais en développant sa médiumnité, finalement, même en dehors des demandes qui lui sont faites, il finit par avoir des renseignements sur les personnes qui l'entourent. Et il finit par être esclave, enfermé dans ce don qu'il tient pour grand et qui, en fait, le tient captif. Je termine avec un exemple dans l'Évangile. Jésus, lui, n'emploie pas ces méthodes-là. Vous connaissez, comme moi, l'exemple de cette femme qui était atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, dit Saint Marc, et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais allait plutôt de mal en pis, et avait entendu parler de Jésus. Venant par derrière dans la foule, elle toucha son manteau, car elle se disait, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. » Et aussitôt, la source d'où elle perdait le sang fut tarie. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Et saint Marc ajoute, « Aussitôt, Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il disait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché. » Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Personnellement, quand je lis ce passage de l'Évangile, je me dis, Jésus ne sait pas. Cela lui reste caché. Et Jésus n'emploie pas la médiumnité. Il n'entre pas de force dans l'esprit des gens autour de lui pour savoir. Il n'emploie pas ces méthodes-là. C'est ce que nous pouvons réfléchir et méditer. Et peut-être à partir de quoi nous pouvons vivre déjà un temps de, comment dire, de demande de pardon au Seigneur si nous sommes allés consulter des voyants pendant cette petite pause musicale qui est la nôtre maintenant pour réfléchir. Alors, on va réfléchir maintenant sur un aspect de la médiumnité qui est l'hypersensibilité médiumnique. L'hypersensibilité médiumnique. Souvent, les gens qui sont médiums s'éprouvent elles-mêmes, les personnes qui sont médiums s'éprouvent elles-mêmes comme hypersensibles. Et je dirais que l'hypersensibilité, c'est d'abord un déséquilibre naturel sur lequel va se greffer le don occulte de médiumnité. C'est un déséquilibre naturel où la sensibilité est plus forte que la rationalité. On a hyper développé la sensibilité au point qu'elle prenne trop de place. Et la personne n'est plus gouvernée par l'intelligence et par la volonté, mais par la sensibilité. Et donc il y a un désordre. Et il y a des ordres qui est contraire à l'intention de Dieu sur la personne. Et à partir de là, la personne est affaiblie et le démon peut attaquer quelque part. Hein. Et le développement de l'hypersensibilité se repère aussi à d'autres symptômes, comme par exemple la fatigue permanente, légère mais permanente, et comme si on se vidait de ses énergies. Et puis un imaginaire qui cogite tout le temps, on n'est jamais en repos, au fond. L'imagination est en ébullition. Et on se réveille le matin fatigué, on ne sait pas pourquoi. Et puis, on ne fait pas que ressentir, mais on ressent le milieu, les personnes, on capte, on prend tout, et toutes les forces positives, mais aussi, du coup, négatives. On devient comme une éponge. On absorbe, on ramasse tout ce qui est autour de soi. Et les personnes disent que c'est profondément gênant, finalement. Elles ne savent pas quoi faire pour se tirer de cela. Ça risque de les conduire à un état de dépression qui mène au suicide, quelquefois, sans qu'on sache pourquoi. Et c'est un aspect très important à bien comprendre, l'hypersensibilité médiumnique qui est un déséquilibre naturel. Mais après, il y a un don paranormal d'origine ténébreuse, d'origine diabolique, qui aggrave l'hypersensibilité. Et là, il y a quelqu'un qui nous permet d'avoir la clé pour entrer chez les autres et qui permet aussi d'ailleurs que les autres rentrent chez nous. Les personnes ont un phénomène paranormal de vision, par exemple, mais qui n'est pas recherché. Il est imposé. Et c'est une manipulation de la personne par les esprits. Phénomène paranormal de vision, et on pourrait dire aussi auditif. Elles entendent des voix, elles ont des locutions intérieures, des messages qui leur sont donnés. Mais là encore, ça peut survenir, et on le voyait avec Patricia Daré, alors qu'elles n'ont rien demandé, ça leur est imposé. Elles deviennent captives. Et ce don paranormal d'origine diabolique est un mensonge. C'est un esprit de mensonge, car les esprits se font passer pour des défunts familiaux, voire pour des saints. Il y en a qui disent qu'ils sont en contact avec le Padre Pio, avec, que sais-je, des saints qui n'en sont pas quelquefois, Judas ou autre, ou encore avec les grands hommes de l'histoire, Victor Hugo qui était du même spirit, ou Louis XIV, ou Napoléon, ou Bonaparte. On est dans le mensonge. Pour la bonne raison que la médiumnité ne met pas en relation avec les défunts ni avec l'au-delà, mais avec le monde des esprits. Ensuite, on peut dire que ce don paranormal, qui est d'origine diabolique, le médium est intermédiaire pour d'autres personnes, qu'elles demandent d'ailleurs ou qu'elles ne demandent pas, cela provoque des liens occultes dans la vie des personnes qui ont consulté ou qui sont contactées. Il y a une propagation. Il y a une propagation qui est malsaine et qui fait qu'une personne qui demande le service de voyant, par exemple, va elle-même avoir des portes ouvertes à la suite de cette opération qui consistera à ouvrir son psychisme, à regarder dedans, à en tirer des renseignements et à les lui resservir. Et voilà. Qui plus est, s'il y a une parole qui a été prononcée sur l'avenir, quelquefois, cette parole qui est vraiment tordue, cette parole va finir par être une inquiétude grave dans la vie de la personne, dans l'esprit de la personne, car souvent, la médiumnité et la voyance aboutissent à des choses annoncées qui sont tragiques. Les esprits contactés veulent la mort spirituelle de l'homme. Et donc, ils lui mettent dans l'esprit quelque chose qui va le travailler à ce point que ça va le perturber grandement. Et donc, vous comprenez, on est parti d'une hypersensibilité médiumnique qui est une déséquilibre naturelle, mais on va dire que par-dessus, il y a un don paranormal qui se greffe, qui est d'origine ténébreuse, et puis ça développe des phénomènes paranormaux, de vision, de locution, de parole, qui sont un mensonge et qui vont opérer une propagation du mal dans les personnes contactées et qui vont mener finalement tout le monde à la mort. C'est profondément problématique, ça. Donc, quand on se met au contact avec des grands voyants, par exemple comme Alain-Joseph Bellet, dont je parlais tout à l'heure, qui met en ligne des vidéos intitulées « Je communique avec les défunts » ou encore « La médiumnité spirituelle ». Quand on le contacte et qu'on obtient effectivement des choses absolument bluffantes, on est en grand danger. Mais quand on, dans une famille, il y a quelqu'un qui a une sensibilité médiumnique, dont il ne sait pas très bien quoi faire d'ailleurs, mais qui l'utilise au profit de sa famille quelquefois, c'est tout aussi dangereux. Et la personne est en grand danger aussi. Il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi suis-je donc un peu médium ? Ces gens, comme je le disais déjà tout à l'heure, se ressentent comme des éponges. Il y a une hypersensibilité qui les fatigue. Et se posent la question, mais pourquoi je suis un peu médium ? Et finalement, c'est souvent parce qu'elles ont elles-mêmes demandé des services auprès de voyants ou de médiums, que ça développait en elles le don de médiumnité, ou encore qu'elles sont allées consulter des magnétiseurs ou des conjurateurs qui travaillent avec des forces occultes et que ça ressort chez elles sous une forme différente, qui est la forme de médiumnité, puisqu'il y a deux grands secteurs pour l'occultisme. Il y a le secteur des fausses guérisons, puis le secteur de la connaissance par dons occultes. Et donc, il se peut très bien qu'une personne reçoive un don de médiumnité parce qu'elle est allée consulter elle-même très fréquemment, au fond, des magnétiseurs et des guérisseurs. Mais il se peut aussi qu'elle le reçoive parce que une génération avant ou deux générations avant, il y avait dans sa famille quelqu'un qui était médium déjà. Et que la filière, si j'ose dire, se poursuit sur les descendants. Tant qu'on n'a pas coupé le lien, tant qu'on n'a pas fermé les portes, tant qu'on n'a pas demandé au démon de se retirer, il a toujours un pied dans la porte sur les descendants, car il se considère dans la famille comme chez lui. Vous savez, un don qui se transmet familialement, il se considère dans la famille comme chez lui. Donc, il est important de pouvoir vivre un temps de prière où l'on va confesser qu'on appartient à Jésus seul et demander aux puissances mauvaises de s'éloigner et couper les liens, fermer les portes et demander à Jésus de nous remettre dans un état de liberté spirituelle qui est celle de notre baptême. Voilà, alors je vais arrêter là pour laisser la place à toutes les questions que vous voudrez bien poser à l'antenne pour qu'on puisse continuer encore cette réflexion.
Voilà, Père, je rappelle juste le numéro à nos auditeurs. Si vous souhaitez intervenir, demandez, vous posez vos questions au Père Dominique Ozonet. C'est le 04 94 209 109. 04 94 209 109. Père, nous avons Ariane avec nous.
Oui, bonjour Ariane.
Oui, bonjour. Bonjour,
allez-y.
Père.
Bonjour.
Alors moi, je voulais vous remercier pour cette émission parce que je me suis trouvée vraiment dedans dans tout ce que vous avez dit. Voilà, moi, je voulais vraiment vous remercier parce qu'il faut des émissions comme ça parce que les gens maintenant, ils courent après ça, il n'y a que ça partout. Et moi, j'ai vécu dedans, je suis une famille qui a été toujours dans les voyants. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il fallait voir les voyantes pour tout. Et c'est vrai aussi que j'ai vu aussi, ma famille s'est dégringolée, mon frère alcoolique, mon père, ma soeur qui est décédée. Il y a eu plein de choses dans ma famille, quoi. Et je voulais vraiment vous remercier parce que maintenant je me suis convertie, j'ai compris vraiment qu'il y a le Christ, que toutes ces choses de voyantes, c'est derrière nous. On a dû faire un travail sur nous aussi pour la délivrance. Et, oui. Et vraiment, moi je voulais vraiment vous remercier de continuer à mettre les gens en garde parce que c'est vraiment ça nous détruit, quoi. Ça, c'est. Oui. C'est quelque chose qui peut nous blesser, même depuis l'enfance, qu'on a l'impression qu'on oublie, mais il y a des choses qui reviennent, qui nous fait vraiment très très mal, très souffrir. Et moi, je voulais vous remercier vraiment pour cette émission.
Non, je vous en prie, merci pour votre témoignage qui est très important. Évidemment, ça ne prend pas toujours cette tournure-là dans les familles, mais quand même, il y a beaucoup de familles qui sont profondément affectées de façon tragique par les dons de médiumnité. Donc vous percevez bien, tous les auditeurs perçoivent bien à travers votre témoignage que il ne faut pas toucher. Et si on a touché, il faut se retirer. Et oui. Je considère presque qu'il faut autant de temps pour s'en retirer qu'on a mis à s'immerger dedans. Je veux dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain, il ne faut pas croire. Il y a un combat spirituel d'envergure.
Il faut du temps et voilà quoi, il faut vraiment persévérer et puis de croire vraiment qu'on va être libéré, quoi, parce que c'est quelque chose de lourd à porter et voilà quoi, il faut vraiment, moi je voulais vraiment de toutes les personnes qui m'écoutent vraiment de pas toucher à ces choses parce que c'est vraiment terrible, quoi. Il y a vraiment, c'est la souffrance, c'est la descente aux enfers, ça porte que les désordres et que les souffrances, quoi. Voilà. Et merci beaucoup.
Vous confirmez. Merci beaucoup.
Merci Ariane. Oui, Père, je vais vous lire un SMS que nous avons reçu de Johanna. Oui. Johanna qui demande « Que faire si on sent en soi, sans le vouloir ni pratiquer, cette hypersensibilité médiumnique ? On devine des choses sur des personnes et sur leurs actes passés. Ce n'est pas facile à vivre. Je comprends la distinction entre sensibilité désordonnée et ouverture à l'occulte, ce qui n'est pas mon cas. Merci Johanna. »
Ce qui n'est pas son cas, l'ouverture à l'occulte, c'est ça qu'elle veut dire.
Oui, mais qu'elle a cette hypersensibilité qui fait que sans pratiquer aucunement, elle perçoit des choses.
Je pense qu'il faudrait investiguer du côté de sa famille. C'est-à-dire que probablement quand même, dans la génération, une, deux ou trois générations derrière, il y a quelqu'un qui tripatouillait déjà dans la médiumnité de façon occulte. Et elle se retrouve avec une sorte de queue de comète, si j'ose dire, un don qui a été transmis familialement, du moins une sensibilité qui est transmise familialement, parce que c'est pas uniquement une hypersensibilité. À partir du moment où on a des renseignements sur le passé des personnes qui sont autour, ça veut dire qu'on est en train de, par porosité, de pénétrer dans la personne qui est à côté sans qu'elle l'ait demandé. Mais ça, c'est profondément irrespectueux, immoral, vous comprenez ? Nous sommes tous étanches les uns par rapport aux autres, et on ne peut pas pénétrer dans les personnes comme ça. Si ça se fait aussi naturellement que ça, si j'ose dire, c'est parce que il y a des esprits qui agissent pour cela. Et donc, il faut une libération, il faut une délivrance. Il faut qu'elle puisse aller voir un prêtre, à mon avis, pour une prière de libération. Il faudra aussi qu'elle fasse des exercices de raison, entre guillemets, de rationalité, pour rééquilibrer l'hypersensibilité par plus de raison, quoi. Mais il y a certainement besoin d'une prière de libération qu'elle peut vivre auprès d'un exorciste ou d'un prêtre qui comprend ces choses-là, quoi.
Alors, Père, nous avons également Christiane en ligne.
Bonjour Christiane, qui comprend ces choses-là.
Alors Père, oui. Nous avons également Christiane en ligne.
Allô. Oui, Christiane, vous êtes avec nous.
Oui, bonjour mon père. Voilà, la personne qui a parlé avant moi avait à peu près le même genre de réflexion, c'est-à-dire que je suis d'une famille où surtout ma maman a touché à tout, mais vraiment à ce qu'on appelle tout, les cartes, le spiritisme, etc. Donc, toute mon enfance, j'ai baigné là-dedans, et toute mon enfance, je disais à ma mère, tu ne me touches pas, tu ne fais pas les cartes. Tu ne fais pas, elle faisait des tas de choses sur le corps des gens. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a mis plein de monde à la maison quand les bébés étaient malades, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, de toute petite, j'avais peur de ça. Je me disais, mon Dieu, Jésus, je me suffis. Voilà. Et ce qu'il y a, ce que je voulais dire, c'est que les gens autour de nous, même quand vous-même vous dites, non, non, moi, je ne touche pas à ça, ils ont tendance à venir vous dire, ah, mais tu pourrais faire quelque chose, toi. Et il faut vraiment, vraiment se dire que c'est là où la foi joue, je pense, qu'on ne peut pas faire confiance à Jésus et en même temps se dire qu'on a besoin d'un support. C'est la question, c'est la réflexion que je m'étais faite. En disant, si c'est possible à Dieu, Dieu n'a besoin d'aucun support.
Oui.
Et ma question, c'est... Notre famille est très perturbée parce que, bien sûr, il y a des frères qui ont pris la relève, qui sont dans la puissance, la méchanceté, la jalousie, etc. Je voulais vous demander si ces personnes-là ont quand même un pouvoir maléfique, je vais dire maléfique, sur les autres. Ou est-ce que, lorsqu'on dit que je suis avec Dieu, rien ne peut m'arriver et cela est, se réalise comme ça? Voilà ma question, la première.
Alors, en fait, quand on vit à un haut niveau de prière et de vie de grâce, quoi, on se confesse fréquemment, on récite le chapelet chaque jour parce que être la main dans la main avec la Vierge Marie, c'est vraiment savonner la planche au démon. Faire une prière de protection chaque jour, notamment quand on a dans sa famille des gens qui versent là-dedans, hein, en principe, on ne sera pas atteint. On ne sera pas atteint. Il faut surtout pas laisser d'intervalle et d'interstice. Il faut être vraiment très constant dans la prière de protection et dans sa vie de prière. On ne sera pas atteint. Je crois, c'est important de le dire. Le chrétien est protégé, mais vraiment, faut qu'il soit en état de puissance spirituelle, quoi. Est-ce que ça répond à votre question?
Il y en a une autre, mon père, c'est parce que, bien sûr, comme tout un chacun, j'ai des difficultés dans ma vie, elles ne sont pas des moindres. Donc souvent, on me dit, ah, tu devrais aller voir un prêtre exorciste, ce que j'ai fait plusieurs fois, en leur expliquant ce que je viens de vous expliquer. Ils ont fait des prières sur moi en me disant, vous n'en avez pas besoin. Je disais, écoutez, mon père, on ne sait jamais, une prière n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Et systématiquement, j'ai des amis qui sont très priants, qui ne font pas le chapelet mais le rosaire, et qui vont à la messe tous les jours, et qui font de l'adoration, et qui continuent à me dire toujours tout ce qui t'arrive, si de la contamination, etc. Et j'ai fini par me dire, si elles étaient vraiment totalement pas soumises, mais en oblation de Dieu, de Jésus-Christ, pourquoi elles mettent toujours en avant le bain? Je sais qu'il existe. Il y a des fois où c'est très lourd, on se sent écrasé par quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et à chaque fois, je me dis, bon, c'est pas grave. Reste avec moi, Jésus, d'une main Marie. Et puis, on verra bien ce qui arrive. C'est cette question-là qui me perturbe aussi, à toujours dire que l'autre est contaminé. Alors qu'on pourrait dire, non, ne te désole pas, parce que si tu tiens Jésus par la main, justement, rien ne peut t'attendre.
Oui, c'est ça, oui, oui, il faut regarder la grâce qui est à l'œuvre, et s'appuyer sur la grâce de Dieu, et avoir un regard positif, oui, c'est certain. Donc vous avez bien perçu le danger, effectivement, de vouloir être... Puis aussi, je pense que c'est pas non plus la peine d'être dans l'angoisse, dans la peur, et de tout noircir constamment. Il vaut mieux mener les gens sur un chemin de lumière, les aider à avancer, quoi. Mais voilà, évidemment, le fait de mettre en garde contre les pratiques occultes, on est pris pour des rabat-joie et des gens qui sont difficiles de contact, mais je pense qu'il faut quand même donner la vérité, quoi. Voilà, je n'ai pas forcément bien répondu parce que je n'ai pas tout entendu de ce que vous avez dit sur un téléphone.
Oui, parce que
merci
la
beaucoup.
Communication n'est pas très bonne.
Merci.
Voilà. S'il vous plaît, merci. Au moment de l'Eucharistie à l'élévation du corps et du sang du Christ, est-ce qu'on peut demander sur un acte, c'est ce que je demande, mais je ne sais pas si je fais bien, à ce que tous les liens maléfiques soient coupés?
Oh, bien sûr, vous pouvez demander à Jésus tout ce que vous voulez, oui. Même en dehors du nom de l'élévation à la messe, hein. Bien sûr, oui. Jésus agit souvent sans intermédiaire aussi, lui. Hein. Voilà.
Merci, merci Christiane.
Je vous remercie, Père.
Au revoir.
Et avec Jésus, on n'a pas besoin de tous les autres.
Merci Christiane, au revoir. Père, nous avons également Marion avec nous.
Oui. Bonjour Marion.
Oui, bonjour mon Père. Écoutez, moi je vous appelle parce qu'effectivement j'ai un témoignage aussi dans ce sens, c'est que mon arrière-grand-mère faisait un peu, elle était issue de la période janséniste, hein, et donc avec beaucoup de manque de confiance, enfin vous voyez, la suspicion, tout, et donc elle faisait un peu du spiritisme, et elle jouait beaucoup tarot, cartes, et voilà, et si on était très à table, elle foutait le camp et puis elle remontait dans sa chambre, enfin tout était... s'il y avait trois corbeaux sur le bord de la route, ça veut dire qu'il y avait un mort. Bon, effectivement, ça se vérifiait. Ah, mais, donc, c'est quelque chose qui se transmet comme ça. Donc, ça, c'était mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère, donc, elle aussi, à chaque fois qu'elle voyait trois corbeaux sur le bord de la route, il y avait un mort, effectivement. Et donc, moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère. Donc, je l'ai vue tirer les cartes, jouer au tarot, etc. Et elle a perdu une fille à l'âge de 21 ans, et de façon dramatique. Et donc, je pense que l'angoisse de la mort et tout ça la faisait perdre un peu la tête. C'était une femme intelligente, mais bon, baignée là-dedans. Et puis, je vous dis, c'était à l'époque janséniste. Et donc, j'ai rapporté ça à ma mère et je lui ai signifié peu, parce qu'elle a en adoration son arrière-grand-mère, mais je lui dis attention, je lui dis très bien, vous l'aimez beaucoup, tant mieux, moi aussi je l'aime, mais ceci dit, elle était dans le mal et elle faisait des choses qui n'étaient pas bien. Et donc, ça peut se reporter sur la famille, comme une malédiction. Et donc, je lui ai demandé de couper les liens. Là, évidemment, je l'ai offensée parce que elle idolâtre son arrière-grand-mère. Et donc, je lui ai demandé de couper les liens et faire dire une messe par prêtre. Dans ce sens-là, elle l'a fait, mais je suis prise pour une cinglée parce que j'ai osé lui demander ça et elle n'y croit pas. Alors est-ce que c'est suffisant ou pas?
Alors après il y a les libertés de les personnes, hein. On peut pas non plus leur imposer des choses si elles n'ont pas réalisé. Je pense qu'il faut passer aussi par un temps de formation sur ces choses-là. Il faut réfléchir et avoir des idées plus claires, plus nettes, pour en percevoir la nocivité, quoi. Tant qu'on ne l'a pas fait, tant qu'un facteur affectif est plus fort que la réflexion, on ne peut pas en sortir, quoi. Mais c'est bien ce que vous nous racontez, c'est bien, parce que ça montre bien que, au fond, quand ça se transmet dans une famille, ça peut faire comme un pacte diabolique. Et il faut dénoncer le pacte. Il faut dénoncer publiquement à haute voix, dans la prière, et dire « nous appartenons à Jésus », voilà, et ordonner aux esprits mauvais de partir, parce qu'il y a comme un pacte. Vous pensez que le pacte est uniquement avec son sang signé en bas d'une feuille. Le pacte peut consister tout simplement à avaliser et à accepter la transmission d'un don occulte puissant de génération en génération dans une famille.
Voilà. Ouais. Mais le prêtre était tellement lié à maman que je subodore qu'il n'y croit pas trop non plus. Donc, voilà. Donc, je suis un peu embêtée avec ça. Alors, moi, j'ai coupé les liens, du coup, avec ma famille. Parce que ces liens-là sont trop forts et sont néfastes.
Et pour moi, il faut prendre soin des descendants aussi.
Ça se reporte en malédiction. Et donc, moi, je suis obligée de me protéger parce que, à cause de cette vision-là, des choses que j'ai en Jésus, et pourtant, ils sont catholiques, mais ils ne croient pas au mal. Et c'est tout le problème. Si on ne croit pas au mal, aux puissances du mal, je ne vois pas comment on peut croire en Dieu. Donc, il faut croire à ces choses de mal. Et voilà.
Et puis, il faut développer une foi qui soit vraiment une foi nue. Sans appui. Et ça, c'est très difficile pour les gens. Ils souhaitent toujours avoir des supports et des béquilles et des messages et des lumières, et etc. Et, alors que la foi est sèche et nue. Ça, c'est très important à dire, quoi. Donc, le chemin est aride, mais c'est là que Dieu peut agir pleinement, parce que c'est là qu'on s'ouvre vraiment à lui et qu'on développe la pleine confiance en lui. La pleine confiance, pas la pleine conscience, hein, la pleine confiance.
Disons que c'est dans la foi en sa parole.
Hein, voilà, sa parole. Voilà.
Et donc ça, c'est une foi pure et évangélique. Et donc,
j'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de chercher à savoir. Je fais confiance à Dieu.
C'est pas quelque chose d'hyper affectif, oui, voilà. D'hyper sensible et d'hyper affectif.
Merci beaucoup pour ce témoignage.
Merci Marion.
Voilà, merci. Au revoir.
Merci, au revoir Marion.
Merci, au revoir.
Père, on peut juste terminer sur un dernier SMS, une dernière question. Alors c'est Gabriel qui nous demande si en consultant par exemple un ostéo qui agirait à notre insu, qui ferait du Reiki à notre insu, cela aurait-il une influence sur nous? Voilà, c'était la question de Gabriel.
Évidemment, on le sait pas, mais si on s'aperçoit que l'ostéo donne dans l'ostéopathie fluidique, et même à la limite qu'il ne touche plus avec ses mains, qu'il est à distance, on peut subodorer qu'il y a de l'énergétique, et donc effectivement, on est dans le cas de figure du Reiki ou du magnétisme ou d'autres choses. Oui, ça aura un impact sur nous. Oui. Donc il faut toujours bien se renseigner sur les qualifications et les formations de son thérapeute. Et ne pas être aussi suffisamment informé et formé pour détecter les choses qui nous permettent de dire non, là, c'est pas possible, on va changer. C'est important. Mais oui, toute action occulte peut avoir un impact sur nous, même à notre insu, justement. Même à notre insu. Et donc, comprenez, par exemple, les camps dans les hôpitaux pour les grands brûlés ont fait appel à des conjurateurs. Les gens, ils n'ont rien demandé. Ils sont très contents, mais ça se passe à leur insu, mais n'empêche que on a ouvert des portes et que le travail est fait. Donc, faut jamais accepter, toujours dire non. C'est difficile, mais c'est comme ça. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Père Dominique Osney.